Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaim Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Yéroam et petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. C'est 1 Samuel. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. C'est 1 Samuel, chapitre 1, et puis jusqu'au chapitre 2, verset 11. Voilà, pour ceux qui ont des Bibles. Bon. Peut-être s'il y en a qui en veulent. Je continue au verset 2. Il avait épousé deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne, parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi restes-tu sans manger ? Pourquoi es-tu si malheureuse ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège, près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse ? Va cuver ton vin ailleurs !» Anne lui répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis y rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon, auquel elle donna le nom de Samuel, Dieu a entendu, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo, avec toute sa famille, pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. » Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel, à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kilogrammes de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Là-dessus, ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Alors, Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. Et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Nul ne l'égale, l'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche? Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà briser l'arc des guerriers. Ceux qui chancellent sont armés de vigueur. Tous les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de biens. Et la stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il tonnera contre eux. Il jugera les confins de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile. Après cela, Elkana retourna chez lui à Rama. Et le jeune garçon fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie.
Bonjour. Alors, comme Michael a dit, on va commencer cette nouvelle série ce matin. 1 Samuel, c'est un livre passionnant. C'est un livre qui raconte la vie de plusieurs personnages bibliques très connus. Donc, il y a déjà Samuel, mais aussi les deux premiers rois d'Israël, donc Saül et David. Et en effet, c'est un livre qui raconte le début de la monarchie en Israël. Donc et par là même, c'est un livre qui raconte la fin de la période des juges. Donc, en quelque sorte, c'est une révolution à l'envers. Alors, en France, la monarchie, ou l'idée d'un monarque, a plutôt mauvaise presse. Là, comme on voit sur l'image, Louis XVI et Marie-Antoinette en ont fait les frais. En Israël, à cette époque, l'idée d'un roi, d'un monarque, commence à faire son chemin. Le livre de 1 Samuel, donc si on devait voir dans la Bible des Juifs, donc la Bible hébraïque, c'est un livre qui suit le livre des juges. Donc dans nos Bibles, c'est le livre de Ruth, en fait, qui est juste avant. Mais 1 Samuel suit chronologiquement la période des juges. Et quel est le dernier verset du livre des juges? Il faut toujours un contexte, donc un passage sans un contexte, c'est un prétexte. Mais même un livre de la Bible a un contexte. Et le contexte de 1 Samuel, c'est le livre des juges. Donc le dernier verset du livre des juges, c'est « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Alors si on connaît le livre des juges, c'est un livre qui n'est pas très connu, mais il y avait une tentative de monarchie. Donc il y avait un homme qui s'appelait Abimélec, un nom qui signifie « mon père est un roi ». Et ça va être une période plutôt sombre, qui vient juste après la période d'un prophète, d'un juge qui s'appelle Gédéon. Donc Gédéon, si on connaît ce livre de la Bible, c'était un juge bien connu, et c'est une bonne période dans l'histoire d'Israël. Mais Abimélec, c'est le contraire. Et au final, Dieu a dû délivrer son peuple de ce roi autoproclamé, de ce dictateur qui avait tué ses frères. Mais Dieu, dans le fond, n'est pas contre l'idée d'un roi. Il avait même parlé d'un roi lorsqu'il a donné la loi à Moïse. Et ce livre, 1 Samuel, va nous parler de la royauté. De la royauté de Dieu d'abord, c'est Dieu qui est le roi, mais aussi de la royauté humaine. Et on va voir dans les semaines à venir quel genre de roi plaît au Seigneur. On va voir aussi par ce récit et par beaucoup de petits récits de l'histoire humaine que notre Dieu est un Dieu souverain, il est souverain sur toute l'histoire. Mais avant d'en arriver là, donc, on rencontre cette famille. L'auteur de ce livre veut que nous fassions connaissance avec cette famille qui vit à l'époque des juges, dans ce monde, ce pays un peu chaotique. Et à quelques égards, c'est une famille tout à fait ordinaire. Une famille comme il a dû en avoir pas mal en Israël. Une famille qui a ses problèmes, ses blessures, ses complexités. C'est une histoire profondément humaine. On peut se poser la question, mais quel est le rapport avec le royaume de Dieu et cette famille? Cette famille, qu'est-ce qu'elle a à voir avec les plans de Dieu? Et ça, on va voir donc au fur et à mesure des semaines dans les semaines qui viennent. Alors, première partie, qu'est-ce qu'on voit? Grande souffrance. Il y a eu un certain homme. C'est comme ça avec Dieu, donc Dieu choisit des situations parfois tout à fait ordinaires, mais il y a eu un certain homme, il s'appelait Elkana. Cet homme habite dans la région montagneuse d'Éphraïm, donc à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. C'est une région qui n'est pas particulièrement connue, mais cet homme, il a dû avoir un certain niveau social. On connaît bien sa famille, le texte nous dit qu'il est le fils de Jéroam, fils d'Eliou, c'est un Israélite avec un héritage. Et on voit que cet homme a deux femmes. Donc il faut avoir quelques moyens pour entretenir deux femmes. Alors dans l'Ancien Testament, il y a ces cas de polygamie. On le voit de temps en temps. La Bible décrit une certaine réalité. Même si à chaque fois, même dès le début de la Bible, dès les premières pages de la Bible, le modèle que Dieu met en avant, c'est la monogamie, le fait d'avoir une seule femme. Au verset 2, on voit dans ce texte que la caméra se focalise sur ces deux femmes. Il y a Anne d'abord, c'est elle la première, suivie de Peninnah, c'est elle la deuxième. Et là, tout à coup, presque cruellement, le texte inverse l'ordre. Peninnah avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et c'est là le problème. Anne n'en avait pas. C'est un drame tout à fait humain, un drame qui est toujours d'actualité, même avec des traitements modernes. C'est peut-être un drame avec lequel certaines peuvent s'identifier ce matin. Et après avoir signalé un peu le cœur du récit, le fait qu'il y a ces deux femmes, la caméra revient sur Elkana. Chaque année, il montait de sa ville jusqu'à Silo. Et là, il se prosternait devant le Seigneur, devant l'Éternel des armées. Comme Michael l'a dit, il allait à Silo parce qu'il n'y avait pas de temple à Jérusalem. Ça, c'est plus tard dans l'histoire d'Israël. Il faut attendre justement les rois. David et ensuite Salomon. C'est Salomon qui va bâtir le temple. Mais pour l'instant, le culte se fait à Silo. Elkana, c'est un homme de bien. C'est un Israélite fidèle qui connaît le Seigneur, qui connaît la loi, qui connaît les prescriptions de Dieu. C'est un homme tout à fait dévoué. Et là, au verset 3, on voit que l'auteur, il fait un court aparté pour parler des deux fils d'Élie. Ophni et Phinéas. Sans nous dire à ce stade, pourquoi est-ce important de parler de ces deux hommes-là? On va voir la semaine prochaine que ces deux hommes, les prêtres, étaient des hommes, des prêtres corrompus. Mais Elkana, il va quand même à Silo. Même s'il y a cette clergie qui piétine un peu la loi, les sacrifices, Elkana, il connaît son Dieu, il veut monter à Silo. Il veut pratiquer sa foi. Et Elkana veut que toute sa famille participe au culte, à l'adoration du Seigneur. Chacun va recevoir des sacrifices, des parts pour donner au Seigneur. Elkana, c'est un bon père de famille. Il est dévoué à son bon père céleste. Il prend ses responsabilités pour sa famille au sérieux. Il prend au sérieux ses responsabilités spirituelles pour sa famille. Il a un souci spirituel pour chacun. Et à cet égard, c'est un bon modèle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ou peut-être on peut dire, il aimait Anne même si malgré le fait que le Seigneur l'avait rendue stérile. C'est elle qui a la première place dans son cœur, même si elle ne lui a pas donné d'enfant. Il sait que de toute manière, ce n'est pas sa faute. C'est l'Éternel, le Seigneur, celui qui est souverain sur toutes choses, c'est lui qui l'empêche d'avoir des enfants. Le mot est lâché, stérile, stérilité. Elle n'est pas féconde, un peu comme au désert. Mort, en quelque sorte, oui, on peut le dire comme ça, incapable de donner la vie. Et nous sommes de retour dans un peu le drame familial humain d'Anne. Qu'est-ce que cette femme stérile peut bien avoir à voir avec le royaume de Dieu, avec ce que Dieu va faire? Ceci dit, peut-être le lecteur averti pense déjà à Abraham et Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Rachel. Et plus loin dans l'histoire, Élisabeth, Zacharie, et même à Marie, la mère de Jésus. Le Dieu pour qui rien n'est impossible semble se spécialiser dans ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Anne n'en a pas. Et ça fait mal, ça fait beaucoup de mal. Et le facteur aggravant, le facteur très agaçant même, s'appelle Pénina, cette rivale. Elle, par contre, elle est féconde, trop. Elle n'arrête pas d'en avoir. Elle en a tout un carquois. Pire, elle n'arrête pas à le dire à tout le monde, à chaque occasion. Ça fait peut-être penser à Agar et Sarah. Elle contrarie Anne, elle se moque d'elle, elle irrite cette blessure profonde, elle y ajoute du sel. Si seulement elle pouvait se taire. Sans doute c'est une forme de vengeance, Pénina laisse libre cours à sa jalousie. Elle lui a donné des enfants, mais pourtant Elkanah aime Anne. Il lui donne une double part chaque année, et ça doit faire mal aussi. Mais bon, le texte ne parle pas vraiment de cette manière. Le texte met l'accent sur Anne. C'est Anne qui souffre, c'est sa souffrance. C'est une vraie souffrance, une agonie même. Année après année, ça se répète. Il n'y a pas de porte de secours, il n'y a pas d'issue. Elle pleure amèrement. Verset 7, elle ne mange pas. Ça coupe l'appétit, donc c'est la fête, ils vont au temple, au tabernacle. Mais ça gâche la fête. Parce que pour Anne, il n'y a pas de raison d'être dans la joie. Certes, il y a Elkanah qui essaie de rassurer, mais bon, ça ne marche pas, c'est en vain. Anne en a marre. Elle n'a plus de ressources intérieures. Franchement, elle est au bout de ses forces. Et c'est pour ça qu'elle se répand devant le Seigneur. Et je pense que c'est souvent comme ça. Lorsque nous sommes au bout de nos forces à nous, c'est à ce moment-là que nous nous tournons entièrement vers le Seigneur, que nous dépendons plus de nous-mêmes et que nous sommes ouverts à sa grâce. C'est bien sa stérilité qui la pousse à chercher un refuge auprès du Seigneur. Le Seigneur a permis ce malheur, cette souffrance, mais c'est justement ce malheur qui la pousse à vraiment aller au trône de la grâce. Comme quoi ces moments difficiles servent à quelque chose. Anne se fait discrète. Elle se lève de la table. Elle parle anglaise, en quelque sorte. Elle s'éclipse pour aller au temple, au tabernacle. Elle passe devant Élie. Il est là, dans sa chaise, dans son siège, à côté du temple. Il est là, un peu sur un trône sacerdotal, donc il veille sur les adorateurs. L'auteur veut vraiment qu'on le note. Mais Anne, elle, humblement, elle se met à adorer, à prier le Seigneur. Et elle y va de tout son cœur. C'est une croyante qui connaît son Dieu. Elle l'appelle par son nom, l'Éternel des armées. Oui, il a des armées, donc il, des armées célestes. C'est un Dieu puissant. Et Anne, elle en est bien consciente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raisonne avec Dieu. Elle se montre très très libre dans la prière. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le Dieu de l'univers, celui qui est tout puissant, souverain, s'intéresse à elle. Elle qui est toute petite, discrète. C'est sa foi qu'on le voit. Et c'est vrai que nos prières révèlent ce que nous pensons de Dieu. Elle ose s'approcher du trône de la grâce. Elle ose raisonner avec le Créateur du monde. C'est un bel exemple. Verset 11, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Si tu donnes, je te redonnerai ce que tu m'as donné. Si tu donnes, cet enfant sera à toi, entièrement, entièrement consacré à toi. » Anne s'abandonne au Seigneur, elle se donne au Seigneur, ses mains sont grandes ouvertes devant Dieu, devant celui qui peut tout faire. Ce fils va être quelqu'un de spécial, un fils qui appartient entièrement au Seigneur, son serviteur. Alors dans un premier temps, elle est mal comprise par Élie. Les signes d'une foi authentique, une piété qui est vraie, en fait, lui échappe. Je me demande si peut-être Élie n'a pas l'habitude de voir ça au tabernacle. Verset 15. Non, elle n'est pas ivre. Elle n'est pas une femme sans morale, mais elle est une femme qui s'humilie, qui s'abaisse devant le Seigneur, qui répand à ses pieds ses soucis, qui dans sa faiblesse se rend auprès du Tout-Puissant, du Maître. Et c'est pour ça que Élie la bénit. Verset 17. Elle y reprit la parole et dit « Va en paix. Que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Et Anne saisit ces paroles. Elle les croit. Elle les comprend comme une réponse à sa prière. Elle repartit. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. C'est vrai que c'est bien de décharger nos soucis sur le Seigneur. On le voit dans la deuxième lettre de Pierre. C'est bien d'aller auprès de lui, de chercher refuge auprès de lui, le Dieu de grâce. C'est vrai qu'on ne le fait pas, on ne le fait jamais assez. Parfois, ça peut sembler plus facile simplement de râler, de traîner les pieds un peu, de broyer du noir. L'apôtre Jacques a dit dans sa lettre, dans le Nouveau Testament, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Jésus a raconté la parabole d'une veuve qui ennuyait un juge. Elle a été persévérante dans la prière. Anne, c'est un bon exemple. Alors dans la deuxième partie de ce récit, nous voyons la réponse miséricordieuse du Seigneur et la réponse d'Anne. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. Ce qui nous rappelle d'autres moments dans l'histoire des Israélites, donc il y a Genèse 8, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Exode 2. Longtemps après le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'oublie pas ses promesses, il n'oublie pas son alliance et cela veut dire qu'il n'oublie pas la nouvelle alliance qu'il a scellée par le sang de Jésus. C'est cette alliance, nous jouissons, cette alliance de paix, de l'esprit, de la vie, de l'espoir de la résurrection physique. Dieu se souvient de son alliance. Il va faire de même avec nous. Dieu se souvient d'Anne. Il la rend féconde. Il change sa stérilité en fécondité. La mort cède à la vie. C'est un garçon. Le garçon s'appellera Samuel. Les aiguilles de la montre de l'histoire du salut commencent à avancer. Cet événement, cette conception difficile, la naissance de ce fils, va faire bouger en quelque sorte les plaques tectoniques de l'histoire. Parce que c'est ce fils qui prépare la voie du roi, la venue du roi. En quelque sorte, ça fait penser à Jean-Baptiste. Dieu va utiliser Samuel pour mettre sur pied le royaume d'Israël. Anne y répond avec fidélité. Elle attend que son enfant soit sévré avant de l'emmener au temple, au tabernacle, à Silo. Humblement, elle donne au Seigneur ce que le Seigneur lui a donné. Elle présente son enfant au Seigneur et elle veut que son enfant appartienne à Dieu pour toujours. C'est un souhait, une prière qui honorable, qui est un exemple pour n'importe quel parent. Et elle y va avec une offrande gigantesque. 3 taureaux, c'est quand même quelque chose, hein? Un épha de farine et une outre de vin. C'est presque la démesure. Le Seigneur lui a donné abondamment. Elle adore le Seigneur, elle y va pour lui offrir un culte, non pas pour gagner sa faveur, elle l'a déjà. Elle a déjà eu son fils. Le Seigneur lui a déjà accordé le salut. Elle connaît la grâce de Dieu. Mais elle y répond avec un cœur reconnaissant. Et c'est répondu à la louange. Et, ce que nous faisons, notre manière de servir Dieu, c'est toujours une réponse à ce que Dieu a déjà fait. Elle nous montre encore une fois cette foi, sa démarche de foi salvatrice. Cette foi humble, c'est cette foi qui est seule, qui ne dépend pas des œuvres, mais qui dépend entièrement de la grâce de Dieu. Elle fait confiance au Dieu qui peut changer la stérilité en fécondité, qui peut ressusciter les morts. Elle répand sur lui ses pleurs et ses pleurs de reconnaissance. En quelque sorte, Anne... Oups. Voilà, je reviens en arrière. Anne a vécu ce qu'on pourrait appeler un mini-acte de salut, un mini-salut. C'est un acte de salut très personnel. Dieu a répondu à ses prières. Mais ce mini-acte de salut montre, c'est comme un modèle en miniature, de comment Dieu sauve sur un plan plus large, à un niveau plus grand encore. Et même cet acte, ce salut en miniature, la naissance de Samuel, va participer à ce salut que Dieu va faire venir dans les années à venir. C'est le cantique d'Anne qui nous le montre. C'est là que Anne reconnaît le caractère de Dieu, ce que Dieu a fait. Elle voit au-delà de ses circonstances. Alors, dans la première partie, Anne parle d'elle-même, de son expérience, de ce qu'elle a vécu. Elle parle avec reconnaissance. Donc Anne pria et dit « Mon cœur exalte en l'Éternel. Ma force, ou ma corne, s'est élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. Anne se réjouit en ce que Dieu a fait, en cet acte de salut en miniature. Elle n'a pas besoin de triompher sur ses ennemis, c'est Dieu qui fait ça, donc en lui donnant la vie. Et Dieu est un roc pour elle. Un roc ne change pas, c'est quelque chose de sûr et certain. on peut toujours nous confier en lui. Mais il n'est pas un Dieu à prendre à la légère, il est saint et les autres. Donc il convient de nous approcher de lui avec humilité, sans arrogance, sans audace inconvenant. Dieu connaît nos pensées, nos cœurs, il connaît tout, donc il faut que nous nous approchions de lui avec ce respect, avec cette crainte. Que Anne, dont Anne est le modèle. Ensuite, Anne nous montre quelque chose qui va au cœur du caractère de Dieu, de ce qu'il fait dans ce monde. Verset 8. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a créé ce monde. C'est le Dieu souverain. Rien n'échappe à son contrôle, à son règne. C'est lui le véritable roi de l'univers. Les colonnes de la terre lui appartiennent en propre. Ah oui, merci. Donc les colonnes de la terre lui appartiennent en propre et sur elles, il a posé le monde. C'est vraiment lui qui est le Dieu souverain. Et qu'est-ce qu'il fait ce Dieu souverain? Verset 5, même la femme stérile enfante sept fois. Donc sept fois, c'est le chiffre de la perfection, c'est complet. Donc même la femme stérile enfante sept fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. C'est Dieu qui renverse les situations, qui élève celui qui est rabaissé et qui élève... qui élève celui qui est abaissé et qui rabaisse l'arrogant. Il va le faire à plusieurs reprises dans ce livre. Donc Anne le vit ici. Le petit Samuel, il va grandir, il va devenir un grand prophète. On le voit avec les fils d'Élie qui sont peut-être sur ses trônes, ils vont être rabaissés. Saül va être élevé et ensuite rabaissé. Et le petit berger David va être élevé et connaîtra les gloires de la royauté. Ce cantique trouve un écho ailleurs dans la Bible. Ces paroles vont se trouver à plus loin dans la bouche d'une autre jeune femme, la mère de Jésus. Marie dit dans son cantique, après avoir rencontré Élisabeth, « Mon âme exalte le Seigneur ». Mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur. Plus loin dans ce cantique de Marie, elle dit « Il a fait descendre les puissants de la trône, élever les humbles. Il a secouru Israël son serviteur et s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Dieu exalte celui qui s'abaisse devant lui, qui s'humilie à ses pieds. Il sauve celui qui a l'esprit abattu. C'est quelque chose que nous voyons aussi de manière suprême en Jésus. Jésus qui ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais qui s'est abaissé pour un peu de temps, comme un serviteur, qui a humblement appris l'obéissance jusqu'à la mort. Et Dieu l'a relevé d'entre les morts. Dieu l'a justifié. Dieu l'a exalté à sa droite. Pour que son nom soit au-dessus de tout nom. Revenons à 1 Samuel, verset 10. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. Anne voit loin. Même avant l'arrivée des rois, donc David, Saül, Salomon, ces rois qui préfigurent en quelque sorte ce roi qui va venir. Elle voit déjà comment Dieu va élever son roi, Jésus. Anne nous invite ce matin à nous humilier devant le roi, Dieu le roi, qui renverse les situations. Devant ce Dieu qui rabaisse les arrogants, mais qui élève ceux qui sont humbles de cœur. Elle nous invite à crier vers lui de manière honnête, vraiment libre dans la prière. Elle nous invite à croire en celui qui ressuscite les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui nous ressuscite avec lui. C'est le cœur de notre foi. C'est elle qui nous invite à mettre notre confiance en lui, à espérer en lui, à compter sur lui seul. Prions. Merci Seigneur pour l'exemple de ta servante Anne. Merci pour sa foi, merci pour son humilité. Merci pour son exemple à beaucoup d'égards. Sa foi qui montre comment nous humilier devant toi, comment espérer en toi, comment compter sur toi seul. Demandons Seigneur de nous aider cette semaine à vivre cette foi qui espère en toi, qui met sa confiance en le Dieu qui ressuscite les morts. Seigneur, nous l'avons vu la semaine dernière avec Pâques, avec la résurrection de Jésus. Prions Seigneur que tu nous aides dans les moments difficiles, dans les drames par lesquels nous passons parfois. Aide-nous à vraiment mettre notre foi en toi qui renverse les situations et qui l'a fait de manière suprême en Jésus. Au nom de Jésus. Amen.